Interview.
2 jours.
Bonjour, ici R. Dubois et c'est l'heure de l'interview avec Bélune. Bonjour.
Bonjour.
Bélune, vous êtes avec nous pour nous parler d'un rendez-vous donné le vendredi 28 novembre au marché de Luc Andiwa. C'est une rencontre avec la rébellion et ce, dans le cadre des journées internationales de lutte contre les violences faites aux femmes qui se déroulent dans le Diwa du 20 au 29 novembre. Pour cela, vous organisez une rencontre autour d'une bibliothèque thématique et d'un espace café convivial. C'est co-organisé avec le 101.7, le VS du Haut-Diwa. Et là, vous allez pouvoir peut-être nous donner un peu quelques indications sur cette matinée.
Alors oui, tout à fait. Donc la formule du salon Cocon sur le marché, c'est une formule qu'on a déjà faite à quelques reprises, notamment pour des événements particuliers comme ceux du 25 novembre. Et l'idée, c'était de pouvoir se retrouver sur un espace public pour justement susciter le dialogue, susciter la rencontre. Parce que là, en réfléchissant, quand on a monté l'association, donc c'était à mon initiative, on voulait effectivement pouvoir intervenir sur le secteur, donc surtout le Haut-Diwa, parce que le Haut-Diwa, c'est quand même 18 communes, c'est vaste, elles sont très éloignées des fois, et même s'il y a d'autres institutions très efficaces, sur 10 notamment, des fois voilà, le trajet est un peu long, et surtout l'idée c'était de sensibiliser. Donc sensibiliser les femmes, pouvoir éventuellement ouvrir le dialogue, les enfants également, puisque malheureusement le berceau des violences commence souvent dès le plus jeune âge, et puis les hommes, puisqu'on a besoin, d'alliés en fait pour changer un peu notre façon de vivre dans notre société. Et Il y avait donc cette formule-là qui était imaginée pour être dans un lieu chaleureux. Donc c'est à l'EVS de Luc, donc rue de la Piscine. Et puis finalement, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de freins qui empêchaient en fait les gens de venir. Le fait de faire un salon convivial sur le marché où il y a beaucoup d'allées et venues, et je me suis dit c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas de porte à franchir. Et ça permet aussi aux gens de nous voir de loin, de venir nous parler s'ils ont envie, mais c'est moins confrontant que de passer une porte pour entrer dans un local. Et puis, justement, ça permet de parler avec plein de monde. Et comme il y a un petit espace jeu, les enfants peuvent venir jouer. Il y a quelques livres qui sont pour eux, des livres pas forcément sur les thématiques. Mais voilà, oui, ils peuvent au moins se détendre, s'amuser. Et comme ça, les parents sont un peu libres de pouvoir regarder les livres. Et c'est moins effrayant quand on arrive avec les banderoles, attention, journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, l'idée était de supprimer un peu tous les mots qui font peur. Bien sûr, ils sont là, ça existe. Donc, féminisme, patriarcat, violence, etc. Mais vraiment de montrer que on peut aussi essayer de changer tout un certain nombre de croyances, de stéréotypes en ouvrant le dialogue, et ça peut aussi être d'une manière chaleureuse, douce, voilà. Et le support, notamment au roman graphique que j'ai découvert là ces dernières années, avec beaucoup de thèmes qui sont très bien décrits, très bien mis en image, qui sont vulgarisés, on va dire, même si c'est un mot qui n'est pas très joli, ça rend pas mal de sujets beaucoup plus accessibles et ça permet des fois des déclics et notamment de belles conversations puisque les gens des fois viennent sur le salon, on propose une tisane et il y a des petits gâteaux, il y a des petits fauteuils, etc. Et tiens, qu'est-ce que vous faites ? C'est une librairie, ils regardent les livres et là on peut se présenter. Voilà, donc nous on est une asso basé sur le Haut-Diwa et on est là pour sensibiliser, pour aider, soutenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et voilà, la discussion, finalement, elle s'engage de manière assez naturelle et ce qui permet effectivement d'avoir plus de visibilité, plus d'écoute. Et j'étais assez surprise puisque la dernière fois qu'on avait fait ce type de marché, au contraire de la première fois, il y a eu beaucoup d'hommes qui sont venus. Et voilà, ça fait du bien, en fait. Parce que c'est tous ensemble, en fait, qu'on peut changer les choses.
Un rendez-vous, donc, pour ce 28 novembre, est-ce qu'il tendrait à peut-être se répéter ?
Alors, tout à fait. Moi, j'aimerais vraiment, par exemple, multiplier la présence sur le marché de Luc, notamment printemps-été, pas forcément tous les vendredis, mais qu'il y ait un peu plus de vendredis où on est là, surtout pendant les vacances, parce que la remarque qu'on m'a faite, c'est que les grands absents le vendredi matin en période scolaire, ce sont notamment les ados qui sont en cours, il y en a d'autres qui sont en internat, et c'est très important justement de pouvoir aussi avoir un lien avec eux, surtout depuis la fermeture des CSS. Ce qu'on oublie aussi des fois, c'est que les violences conjugales commencent dès l'adolescence, hein, c'est possible. Hein. Et encore une fois, il faut sensibiliser au respect de chacun, respect de son corps. Et pour ça, il faut qu'il y ait des espaces où on peut discuter, proposer des livres éventuellement discuter plus largement ou de manière plus intimiste lors d'une permanence ou d'un rendez-vous qu'on peut prendre ensemble, sachant que les permanences se font un vendredi par mois, donc le dernier vendredi, à l'EVS, dans une petite salle que l'on a rénovée, repeinte avec des couleurs chaleureuses. Et encore une fois, c'est très convivial. Et le marché offre cette opportunité-là de servir d'alibi aussi.
C'est une association mixte, ainsi est-elle présentée, et qui s'adresse donc à un public mixte également.
Quand on regarde les statistiques, malheureusement, par exemple pour l'année dernière, c'était un peu moins de 280 000 plaintes pour violences intrafamiliales. Donc déjà, ça rappelle bien que la plupart des violences sexuelles, elles sont faites souvent dans la famille. Et sur tous ces cas-là, ne sont comptés dedans que les dépôts de plainte. Donc il y a toutes les personnes qui n'ont pas osé ou pas pu déposer plainte, qui des fois ne sont même pas au courant qu'elles subissent l'inacceptable. Et sur tous ces cas-là, c'est 86% des hommes qui ont commis en fait ces violences. Il y a vraiment un problème avec la façon dont sont perçues les femmes au sein de la société. Donc voilà, après c'est culturel, c'est sociétal, il y a tout un tas de choses à changer. Mais justement, il faut très tôt qu'on puisse intervenir pour agir là-dessus. En fait, parce que c'est vrai que si les enfants grandissent en pensant que ça, c'est correct, de se permettre des actes ou des paroles parce qu'ils les ont déjà entendus ou déjà vus, en fait, c'est un vrai problème. Donc c'est plutôt concernant les femmes. Et en plus, c'est un vrai problème de santé publique, en fait. Si on cumule le coût financier sur les répercussions au niveau de la santé, santé mentale, santé physique, c'est absolument énorme en fait. Et en moyenne, l'Observatoire avait à peu près calculé qu'au cours de sa vie, c'est une femme sur trois en fait qui va subir une agression sexuelle, voilà. Donc c'est vraiment un problème majeur. Et puis on dit des fois, on parle de minorité, c'est quand même la moitié de l'humanité. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans toutes les populations du monde. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est ancré.
Dans l'humanité. Vous proposez cette sensibilisation. Alors, que peut-on entendre par ce terme ? Parce que, est-ce que parfois les femmes n'ont pas conscience de leur situation ?
Absolument. Ça arrive très fréquemment, et notamment dans les cas d'emprise, où c'est vrai que des fois on regarde un film et notre premier réflexe c'est de dire mais pourquoi elle reste ? Pourquoi elle ne se casse pas ? Enfin, ça nous révolte. Et en fait, l'emprise, c'est vraiment ça. C'est tout un tas de mécanismes qui se mettent en place petit à petit, qui vont venir comme grignoter l'énergie de la personne, grignoter ce qu'elle est, et l'empêcher en fait de sortir. Elle est comme dans une sorte de prison dorée où finalement il n'y a pas besoin qu'il y ait des chaînes, des barreaux. Elle est dans une prison, ça on appelle ça l'enfermement coercitif. C'est-à-dire que uniquement par la manipulation, par des stratagèmes psychologiques, psychiques, la peur est assez forte pour empêcher toute représailles, parce qu'on a peur des suites. Souvent, il y a des enfants. Là aussi, la plupart du temps, les violences commencent pendant la grossesse, la première grossesse. Et,
c'est lié à quoi, justement ?
Souvent, on a déjà les prémices de violence avant, mais il y a un peu tous ces trucs de lune de miel, puis on passe à côté des choses, et puis on excuse. Voilà, il y a des choses qui sont tellement ancrées dans notre société. Voilà, l'homme, il est comme ça, il peut pas montrer ses émotions. Faut l'aider, il va s'améliorer. Bon, là, il est un peu sorti de ses gonds, mais bon, j'ai un peu exagéré. Bon. Donc, il y a souvent les petits... C'est souvent visible dès le départ, mais on ne les prend pas suffisamment au sérieux ou comme des alertes. Et une fois que la femme est enceinte, donc déjà, c'est une période très particulière. C'est une période aussi de... plus de vulnérabilité, je dirais, parce que c'est une métamorphose, il y a toutes les hormones qui travaillent. Des fois, voilà, il y a des arrêts de travail, donc il y a le contexte financier qui intervient. Et comme souvent, le contexte de violence, il est rarement physique au départ. Si les violences arrivaient dès le départ, les femmes ne resteraient pas, en fait. Donc c'est d'abord psychologique. Et le fait que la femme soit enceinte, c'est un peu comme si le monde de l'oppresseur, parce que souvent quand même le conjoint, les féminicides, c'est quasiment tout le temps l'œuvre d'un conjoint ou d'un ex-conjoint. Donc vraiment, c'est dans le cadre familial. Et voilà, en fait, il y a un petit être qui arrive et qui va prendre un peu la place. La femme est moins disponible, moins au service de cet homme, qui va du coup vraiment plus en plus se révéler. Et ça peut monter crescendo, effectivement.
Alors, je vois aussi par rapport aux violences, hein, il y a celles sexistes. Qu'est-ce qu'on peut définir par ce terme précisément pour, au sein d'un couple, hein, ou au-delà ?
Alors, au sein d'un couple, en ce moment, je lis un livre qui est très, très bien, qui est l'œuvre d'une juriste, Madame Viau, qui est intervenue à l'Assemblée nationale. Et il est flagrant de maltraitance sexiste, justement. Et j'ai plutôt envie de parler de ça parce que c'est là aussi où je me dis, pour faire évoluer les choses, ça va prendre vraiment du temps pour qu'au niveau des tribunaux soit vraiment appliqué la loi, que les femmes soient vraiment écoutées, prises au sérieux. Parce que voilà, sur tous ces cas de dépôt de plainte, il y a quand même seulement 1% des agresseurs qui vont être poursuivis. 1%. En fait, donc on se dit des fois à quoi ça sert de porter plainte, à quoi ça sert de faire tout ce parcours qui est, il faut le rappeler, absolument horrible. C'est une autre torture administrative, juridique. D'ailleurs, un nouveau concept juridique qui est en train de voir le jour, qui est la double victimisation, qui est assez intéressant aussi. Tout ça pour dire, en tout cas, qu'à l'Assemblée nationale, les femmes ont beaucoup de mal à faire leur place. Vraiment. Elle explique le nombre de fois où il y a des interventions pour se permettre de faire une remarque sur la tenue. Les micros ne sont pas du tout réglés sur les fréquences des voix de femmes, donc elles sont moins bien entendues, clairement. On ose leur couper la parole, on ose leur rabaisser. Voilà, il y a des remarques comme quoi, elle n'a rien à faire ici, elle ferait mieux d'être à la maison en train de s'occuper de ses gosses. Enfin, et c'est hallucinant de se dire que ce sont quand même des personnes censées nous représenter, qui n'ont pas encore vraiment pris la mesure de ce qui est en train d'émerger. Et il va falloir effectivement qu'il y ait un changement, parce que ça ne peut plus durer, ça n'est plus possible en fait. Et même des fois, on peut avoir vu des femmes en politique qui se font descendre pour tout un tas de prétextes, alors qu'il y a des choses bien plus graves qui se passent avec leurs collègues masculins, et ça, c'est presque OK. Et elle évoque notamment la connivence masculine. C'est vrai qu'en ce moment, j'essaye de vraiment travailler sur le déni collectif, parce que j'ai vraiment envie de comprendre pourquoi c'est si difficile, après, dans nos localités, de faire un peu bouger, de faire que les gens se positionnent, qu'ils comprennent que défendre les femmes, c'est défendre de manière presque quasi directe, des fois, leur nièce, leur fille, leur sœur. Voilà, on court toutes un risque, sans vouloir faire peur, mais on est toutes confrontées à ça un jour ou l'autre. Effectivement, il y avait eu l'affaire Baupin à l'Assemblée nationale, et là, on ne cherche même pas, en fait, les députés ont d'abord pris la défense de leurs collègues, comme si, voilà, il y avait vraiment un enjeu, il ne fallait pas toucher justement cette confrérie presque, alors même qu'il y avait plusieurs femmes qui avaient porté plainte. Là, c'est direct, on ne se pose pas de questions, et non, et du coup, on décrédibilise la voix de ces femmes, comme si elles voulaient vraiment juste chercher à atteindre la réputation de ces hommes. Et en fait, non, les femmes ne sont pas toutes des menteuses, et il y a vraiment, faut vraiment y faire attention. Et puis, petit à petit, en fait, cette connivence masculine, qui est consciente ou pas consciente, en tout cas, elle va finir par montrer. Et en fait, c'est ce que je dis actuellement quand on me dit « Oui, mais là, c'est de l'ordre familial, ça ne nous regarde pas, on n'est pas concerné, c'est de l'intime, etc. » Ben, en fait, si, à partir du moment où ce sont des violences, ce n'est pas du conflit, on est absolument tous concernés. Et donc, à partir du moment où des femmes viennent, dénoncent des faits de violence sexiste, sexuelle, nous sommes tous concernés. Et en plus, j'ai envie de dire, normalement, la posture qu'ont ces personnes-là devrait montrer une véritable intégrité Et là, en fait, avant même de réfléchir et de se dire, bon, on va faire la part des choses, on va écouter et on va analyser la situation, c'est direct, on prend la défense de l'homme, alors qu'on sait que la majorité des cas d'agression sont le fait de l'homme.
Au-delà de l'écoute hein, et de l'échange que vous proposez, vous amenez aussi un accompagnement juridique. C'est une activité assez courante pour la rébellionne.
Ça commence petit à petit. C'est toute jeune association. Hein. On l'a montée, c'était en août 2024. Voilà, il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui mettent un peu, qui prennent un peu du temps. Après, je crois que c'est vraiment important d'être patient parce que l'idée, c'était de pas créer de doublons, de favoriser en premier lieu le discours avec tout ce qui se fait déjà sur place. Pour créer un vrai maillage, en fait, parce que c'est ensemble qu'on est vraiment plus fort, qu'on peut être vigilant, qu'on peut effectivement intervenir. Et moi, j'ai un cursus juridique, et comme ça fait quand même beaucoup défaut dans le coin, il y a la présence d'intervenants juridiques via Remède, via le CIDFF, par des permanences, donc c'est très très bien, mais c'est pareil, c'est sur rendez-vous, c'est des fois juste une session une fois par mois, il y a beaucoup de demandes, et c'est trop long, des fois on a besoin d'avoir, d'avoir une réponse tout de suite, les avocats ne sont pas forcément dispo, il y a le souci de l'aide juridictionnelle aussi, qui fait que ce n'est pas toujours évident d'avoir un lien direct avec l'avocat, l'avocate. Enfin, voilà, y a tout un tas d'éléments qui font que c'est très long et on a pourtant des femmes derrière qui sont souvent très inquiètes. Et qui sont des fois même plus en mesure de faire une quelconque action, en fait. Passer un coup de fil, des fois, c'est trop dur. Elles n'ont plus d'énergie pour ça. Et moi, je me suis dit, en écoutant un podcast, c'était une chambre à soi. Voilà, un podcast super intéressant qui s'appelait « Le procès des folles ». Donc là, déjà, c'est assez clairement énoncé. Hein, les femmes qui osent porter plainte, ce sont des folles, des folles hystériques. Voilà. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est là qu'on doit agir. Aider ces femmes à porter plainte, je pense que même si c'est très compliqué, il me semble que c'est important, et surtout leur apporter des fois les premières étapes à faire, faire une demande d'aide juridictionnelle, les renseigner sur leurs droits, et aussi pouvoir écouter leur récit et leur dire « mais en fait, là, ce que tu as vécu, c'est un viol. Là, ce que tu as vécu, c'est en droit pénal, c'est temps d'emprisonnement. Telle peine, en fait, c'est inacceptable. C'est absolument inacceptable. Et c'est vrai que des fois, elles ne le savent pas, des fois, elles ne s'en rendent plus compte. C'est vraiment le phénomène de la grenouille. Si on jette une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle va essayer de s'échapper aussitôt. Tandis que là, ces femmes, ce sont des grenouilles qui sont dans un petit bain qu'on fait chauffer petit à petit. Et la grenouille, elle est complètement amorphe et elle se laisse cuire et elle ne peut plus agir. Et moi, j'avais vraiment envie d'être là pour un peu réveiller. En montant l'assaut, c'est exactement ce qui a été le cas. C'est-à-dire que c'est plutôt dans le réseau, mon réseau proche, que ça a suscité des interrogations. C'est comme ça que j'ai commencé à passer des livres en disant eh ben, lis ça si tu as envie, quand tu seras prête, et après on en rediscute. Et ça a vraiment fait des étincelles. Et après, de dire, écoute, voilà, en fait, moi, je suis là pour faire le relais, voilà, parce que il y a le CMS, il y a la PMI, il y a le CMP, il y a les chouettes sur 10, il y a voilà, plein de personnes qui seront plus à même d'accompagner correctement, parce que nous, on n'a pas encore les effectifs, on n'a pas encore vraiment la capacité. Par contre, au niveau juridique, là, moi, je veux bien intervenir.
D'ailleurs, vous parliez de ce maillage hein, qui s'opère sur le Diwa, le Haut Diwa. Il y a aussi cette peut-être consultation entre toutes ces associations, de manière à ne pas, comme vous le disiez, provoquer des doublons. Est-ce que malgré tout, il y a encore une forte demande qui n'est pas, en quelque sorte, ne trouve pas forcément de réponse. Peut-être, est-ce qu'il faut encore amplifier ces moyens ?
Oui, parce que c'est vrai que des fois, on me dit, mais pourquoi créer encore une autre asso ? Il y a déjà les chouettes. Mais en fait, on sous-estime le nombre de demandes. Il y a vraiment besoin qu'on se rapproche des espaces vraiment ruraux, en plus. Et ce que je trouve vraiment chouette cette année, c'est que là, il y a vraiment, vraiment l'émergence d'un partenariat entre tous les gens. Il y a vraiment une prise en compte là, du personnel médical qui cherche à se former aussi, parce que jusqu'à maintenant, beaucoup de gens n'étaient pas formés justement à ces phénomènes d'emprise et de déni, qui sont des fois très difficiles à déceler. Et là, vraiment, ça bouge avec des projets qui se mettent en place, des rencontres. Ça, c'est chouette parce que je trouve que là, ça prend le pas sur certaines réticences qu'on peut avoir au début. De dire, oui, multiplier les actions, est-ce que c'est juste ? Il y a un tel qui fait ça, oui, mais au niveau institutionnel, il y a ça qui est prévu, donc il ne faut surtout pas prendre le travail des professionnels, parce que sinon, c'est des postes qui vont disparaître, des questions de budget, blablabla. Et là, vraiment, c'est de dire, bon, comment on peut travailler pour justement éviter qu'il y ait des personnes qui restent sans réponse et que ce soit... que ça se cumule correctement, en fait, aussi pour éviter à toutes ces personnes victimes qui sont très fragilisées d'être ballottées d'un endroit à un autre aussi. Là, voilà, c'est vous allez voir telle personne à tel endroit, si vous voulez, voilà, il y a les numéros, si vous avez besoin pour appeler, vous nous dites, on est là. Et ça aussi, ça facilite beaucoup le fait d'oser franchir une porte, de dire oui, en fait, j'ai entendu parler de cette personne-là, ça aide beaucoup, voilà. Donc c'est vraiment, vraiment important. Et malheureusement, effectivement, quand on fait une moyenne de dire que c'est une femme sur trois qui a subi des violences au cours de sa vie, moi, je l'ai vraiment ressenti ici. C'est-à-dire que le nombre de fois où... quand j'ai parlé justement de ces thématiques-là, j'ai eu des « Ah, mais moi aussi, j'ai vécu ça, en fait. Bah, » Moi aussi, au lycée, au niveau professionnel, où j'ai eu un conjoint comme ça, qui était... Je me suis dit « Mais purée, en fait, c'est... » Alors, au début, j'étais là, en fait, c'est une bonne idée de monter une autre association. Mais en même temps, ça me donnait la chair de poule en me disant « Mais... » Effectivement, je sous-estimais l'ampleur des dégâts et l'ampleur du laisser-faire.
Face à vous, il y a aussi une réaction qui émane du côté des hommes. On pense à ces mouvements masculinistes ou aussi peut-être des mises de bâtons dans les roues. Là, j'apprenais récemment que l'extrême droite, du moins le Rassemblement national, envisageait de couper les subventions ou de stopper le Centre national du cinéma pour justement amener des productions et qui pourraient justement amener une nouvelle réflexion de société. Mmh. Donc, est-ce qu'il y a, vous, face à vous aussi, et ça, c'est peut-être un temps qui est passé au détriment des victimes, à vous défendre ?
Alors, ouais, il y a un certain nombre de choses en ce moment qui me mettent très, très en colère. Il y a un peu ce qui arrive, c'est-à-dire le fait de mettre à distance la parole des femmes et du coup de faire dévier le débat. Et voilà, c'est quelque chose qui est dénoncé. C'est pareil, ce que je peux entendre quand je présente l'association, c'est pas que des réponses masculines, hein. Y a aussi des réponses féminines, mais j'ai entendu des choses comme mais mon Dieu, ça, les trucs MeToo, etc., ça va engorger les tribunaux. Alors non, pas du tout, les tribunaux sont déjà engorgés, de toute manière. Et puis, il y a aussi, oui, mais il y a les femmes aussi, y en a aussi qui sont maltraitantes. Alors oui, par contre, les féminicides, il y en a pour cette année, je crois, déjà plus de 140. Voilà. Et il y a tout un...
Pratiquement 3 victimes par journée hein, en France, qui aboutissent vraiment au meurtre, mais d'autres qui sont des tentatives.
Ouais.
On a pu l'observer récemment, d'ailleurs, dans le Diois.
Ouais. En revanche, moi, c'est ce que j'avais envie de dire, c'est qu'on s'imagine aussi que ça, c'est ailleurs, c'est à la télé. Non, il y a eu un féminicide à Montélimar, là, en octobre. À Montélimar. Et donc oui, en fait, là aussi, chez nous, il se passe des choses. Et ça, c'est quelque chose qui me révolte parce que, justement, je ne regarde pas vraiment la télé, mais ça m'arrive de voir des images, je me tiens quand même au courant de ce qui se passe. Et il y a un féminicide, et alors là, devant le lieu d'habitation, ça croule sous les fleurs, etc. Tout le monde vient, etc. Et alors... moi, ça me met dans une colère monstre parce que je me dis, mais en fait, ces gens-là, ils étaient où avant que ça ait lieu ? Parce que je le vois bien, en fait, le déni collectif, il est là. Et pas toujours de manière consciente. Il y a plein d'arguments qui peuvent expliquer ça. C'est pas toujours, voilà, la vie, elle est difficile, on n'a pas toujours le temps. Voilà, il y a tout un tas de raisons. Mais ce que je vois là, avec justement l'émergence de ce maillage qui se fait, d'assauts, d'institutions qui veulent faire bouger les choses, il y a une réponse masculiniste derrière. Donc, il peut y avoir effectivement des menaces. Il y a tout un tas de cyber-harcèlement. Hein, voilà, ça, c'est la réponse. Et aussi, tout un tas d'hommes, là, qui viennent avec des discours quasiment féministes. Et au final, petit à petit, c'est une manière d'être accepté. Et pourtant, c'est pas du tout dans le cadre, justement, d'œuvrer pour l'égalité homme-femme. Et en fait, c'est ça, hein, c'est ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une véritable égalité, en fait, en droit. Voilà, on ne veut pas devenir l'équivalent des hommes. Voilà, on veut l'égalité en droit et on veut être protégé. C'est pas normal de vivre dans une époque, une société où, effectivement, il fait nuit, on sort le soir, toutes les femmes pensent à faire attention, pensent à leur tenue. Enfin, et ça, c'est devenu presque normal. Donc, des fois, des réflexions ou de se faire bloquer dans la rue. Ça m'est arrivé une fois, il y a un camion derrière moi qui m'empêchait de bouger. Il n'avait même pas besoin finalement de me parler. J'étais bloquée. Et moi, j'ai perdu patience une rare fois. Donc, je lui ai hurlé dessus. Et je voyais qu'il était fier de lui parce que je passais pour l'hystérique. Alors qu'il m'avait... Il m'avait bloqué, en fait. Et son but, c'était de m'emmerder. Et c'est là où on se dit, mais en fait, il y a plein de gens en terrasse, mais levez-vous et rendez-vous compte.
Bélune, l'émission touche à sa fin. Et comment joindre la rébellion au-delà de cette date du 28 novembre ?
Alors, déjà, le 28 novembre, c'est vraiment une date qui est super chouette. C'est vraiment un lieu favorable pour la rencontre et tout. Et aussi l'occasion de pouvoir adhérer, parce que pour l'instant, c'est bénévole, hein, mais on a quand même quelques dépenses. Et sinon, il y a une adresse e-mail et un numéro de téléphone aussi. Oui, l'adresse mail, c'est larebellion26@gmail.com. Ça, c'est l'idéal. Comme ça, après, moi, je rappelle éventuellement, voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Béline, d'être venue sur Air du Bois pour nous parler d'une de ces propositions qui auront lieu donc, pour ces journées internationales de lutte contre les violences faites aux femmes, et notamment dans le Diwa. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Vous aussi, au revoir.
Vera, bonjour.
Bonjour.
Vera Léon, alors vous êtes avec nous pour nous parler de vos interventions dans l'organisation avec cette rencontre littéraire avec Cécile Rousset. Et ça se passera au Temple de Saillant, donc un petit peu excentré du centre-ville de Die. Il y a une raison à cela aussi, c'est peut-être aussi pour rayonner un peu au-delà du Diwa.
Oui, il y a beaucoup de raisons à ça. Il y a le fait que, évidemment, il n'y a pas que dans les villes que les villages sont bien sûr concernés. Aussi le fait qu'il y a eu des mobilisations importantes à Saillant. Il y a des personnes concernées, évidemment, aussi à Saillant. En réalité, il faudrait en organiser dans chaque village de toute la Drôme. Mais déjà, en tout cas, l'idée, c'était effectivement de connecter le haut et le bas de la vallée. Saillant étant plus proche de Cré et ce mouvement s'étant effectivement étendu sur l'ensemble de la vallée. Et on a la chance de pouvoir accueillir Cécile Rousset, donc qui est l'autrice d'une BD qui parle en fait de l'histoire du mouvement décollage contre les féminicides et voilà, et qui va pouvoir justement parler. L'idée de cette première rencontre, c'est notamment de visibiliser et de mettre en lien les questions à la fois de violence faites aux femmes et aux minorités de genre, mais aussi les questions de santé sexuelle. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux questions ne sont pas décorrélées, au contraire, elles sont complètement liées.
Voilà, donc un rendez-vous qui se passera au Temple de Saillant. Il y a des réservations à formuler ou pas ?
Non, c'est entrée libre, c'est tout à fait ouvert à tous et à toutes.
Donc une rencontre littéraire avec des lectures parfois peut-être, et puis et surtout un dialogue. À la suite, mercredi 26 novembre, il y aura aussi une exposition soupe autour du collectif. Donc c'est une exposition qui retracera la lutte à travers des photographies, des affiches sérigraphiées, des articles de presse et des vidéos, et tout ce mouvement qui n'a pas fini, hein, puisqu'il y a toujours cette lutte pour rétablir ce centre de santé sexuelle. Pour vous, qu'est-ce que représente cette page d'histoire un peu divoise?
L'idée, c'était, mercredi, donc 26 novembre, de se retrouver d'abord à 16h30 pour une rassemblement-manifestation devant la cité scolaire pour parler justement du rôle des mineurs, en fait, qui vont être les premières concernés dans la vulnérabilité, dans l'accès au transport, dans le fait que le CSS ferme, fait que du coup, c'est ces jeunes qui vont se retrouver sur les routes à devoir faire des centaines de... des heures de trajet et c'est tout à fait inquiétant. Donc l'idée, c'était vraiment de commencer comme ça et puis évidemment aussi de célébrer, de donner de la force en fait collectivement, parce qu'il faut se rendre compte que tous ces mouvements, c'est des mouvements qui reposent sur des forces humaines qui sont déjà bien, en général, qui sont des personnes qui ont elles-mêmes vécu des choses qui sont pas forcément faciles. Et puis du coup, de célébrer un peu aussi par... il se trouve qu'on a eu la chance d'être accompagnés tout au long de ce mouvement par... Des super photographes, des super vidéastes. Et donc, on a des très belles images qui vont... Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner accès au grand public à ces images qui ont été, pour la plupart, aussi relayées sur les réseaux sociaux, puisqu'on avait lancé cette page Instagram, notamment, qui s'appelle Nos droits en stop, sur laquelle on a des personnalités nationales en fait qui ont pris position, Marine Tondelier au niveau la députée de la Drôme Marie Pochon, mais aussi des personnes de la France insoumise, des écologistes, des personnalités du monde, enfin pas du monde entier quand même, faut pas exagérer, mais de la France entière en tout cas. Et donc l'idée, c'était un peu de célébrer ça, et donc vous aurez l'occasion de découvrir toutes ces belles images à cette occasion-là. L'exposition, elle va durer toute la semaine au Pestel, donc vous pourrez la voir voir même à l'occasion d'une séance de cinéma plus ordinaire, on va dire. Et elle va être déplacée ensuite au moment du programme, justement, sur le samedi.
En amont de cette exposition, il y aura aussi cette manifestation devant la cité scolaire à 16h30.
C'est ça. Et le samedi, c'est vraiment l'idée de regarder vers l'avenir et de se demander qu'est-ce qu'on peut faire en fait aujourd'hui. Alors, on a quand même des questionnements qui sont nationaux. Hein, la question de la fermeture des plannings ou des diminutions de budget concerne toute la France en fait. Et donc, l'idée, c'était vraiment de croiser les perspectives. Donc, pour ça, on a invité vraiment on a la chance d'avoir eu vraiment on a lancé des invitations dont on a la chance qu'elles aient été. On a répondu très positivement. On a à la fois Marie Pochon, la députée de la Drôme, on a des élus départementaux, des élus locaux de la Comcom. On a aussi une personne qui va venir nous parler du centre de santé communautaire qui a été créé il y a quelques années à Lyon, à Bron plus précisément, en banlieue de Lyon, qui va nous parler justement de comment est-ce que, quand l'action de l'État fait défaut, comment est-ce qu'on peut penser des alternatives, quelles sont à la fois les possibilités, les choses très chouettes qui sont permises par le fait que ce soit de manière communautaire, c'est-à-dire de manière aussi organisée finalement par des personnes qui sont directement les usagers et usagères de soins, et en même temps les difficultés de ce genre de démarche. On aura aussi des personnes de la CPTS, donc la communauté des professionnels du territoire de santé, notamment Maud Rosenstiel, qui est donc médecin généraliste, qui est co-directrice de la CPTS et qui va aussi nous parler dans son engagement qui date déjà du printemps. Il y a une commission maintenant qui est dédiée à la santé sexuelle à la CPTS, donc elle va représenter cet engagement-là. Et puis on a aussi évidemment donc à la fois des militants, militantes locaux et investis sur ces questions-là, mais aussi des membres d'un collectif qui est en train de se monter pour justement créer une permanence de santé dédiée aux personnes LGBTQIA+, sur le territoire de la Drôme, et également des jeunes du territoire. Et il faut savoir qu'il y aura aussi un journaliste de France Culture, Olivier Denré, qui sera présent ce même jour et qui sera, à vrai dire, présent pour couvrir toute la semaine dans le cadre d'un grand reportage qui fait l'ensemble de nos actions. Et donc voilà, l'idée, c'était vraiment de permettre en fait une rencontre où chacun, chacune est invité et bienvenue pour justement réfléchir ensemble. Donc l'idée, c'est pas que ce soit une parole descendante où on nous dise comment il faudrait faire, etc., mais bien qu'on puisse faire un état des lieux ensemble, citoyens, de qu'est-ce qui va pouvoir s'inventer, comment est-ce qu'on fait quand l'État fait défaut.
Ce rendez-vous à 17h, il y aura une limite de temps, ou alors ça pourra continuer un certain temps?
Vous êtes les bienvenus, quel que soit l'horaire où vous arriviez. Vous pouvez aussi en repartir à tout horaire. L'idée, c'est d'avoir au moins 2 heures d'échange au niveau de la salle communautaire. Et ensuite, ce sera suivi d'un moment convivial autour d'une boisson chaude. Donc, n'hésitez pas même à nous rejoindre par la suite si vous avez envie d'en discuter. L'idée, c'est aussi, justement, ce journaliste, par exemple, il cherche aussi des personnes qui pourront témoigner de ce qui se passe sur le territoire, des difficultés, en fait. Donc, c'est vraiment un temps d'échange citoyen qui sera probablement ouvert jusqu'à 20h, 20h30 facilement à l'ESCDD.
La visibilité du collectif d'Ivois de lutte Sauvons les CSS, où peut-on la trouver?
Alors, nous avons donc un Linktree comme site internet. Donc, Linktree, vous tapez juste comme un arbre à lien en anglais, arbre à lien, nos droits en stop. Sinon, on a une page Instagram, nos droits en stop. On a aussi une page Facebook, nos droits en stop. Vous pouvez nous retrouver facilement par ces différents biais.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Vera, et je te souhaite une bonne fin de semaine.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Et toi aussi, au revoir.
Je suis une fanfreluche, un petit chien en peluche. Je suis une fleur en peau. Je suis un bibelot, je suis un bilboquet, rien qu'un petit jouet. Je suis la femme. Je ne pense pas avec ma tête qui sert à la décoration. Je n'ai pas d'âme, je suis comme une bête. D'ailleurs, j'ai les cheveux trop longs, mes ongles, c'est pas pour griffer, c'est pour y mettre du vernis.
L'oreille, c'est pas pour écouter.
Pour les connaisseurs, c'est un fruit. Je suis une confiture, je suis une parure, je suis un lison, je suis un édredon, je suis une poupée et je suis un gibier, je suis la femme. Deux pieds comme si j'étais un être humain, c'est pour ne pas désorienter. Si j'ai deux yeux, si j'ai deux mains, c'est seulement pour faire illusion que l'homme soit pas dépaysé. C'est une bonne imitation. On pourrait presque s'y tromper. Je suis un accoudoir, je suis un reposoir, un monstre familier, une puce dressée, poète prends à lire, tu pourrais presque dire qu'il ne me manque que la parole.